VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Bion.
Bonjour à tous, il est 11h en temps universel. Le président djiboutien Ismaël Omar Guelleh, qui règne sans partage depuis 1999 sur son petit pays de la Corne de l'Afrique, est promis à une confortable réélection lors de la présidentielle de vendredi, boycottée déjà par une partie de l'opposition. Quelques 187 000 électeurs sur une population de 875 000 habitants sont appelés à se déplacer dans un des 455 bureaux de vote pour choisir le président parmi six candidats. Les résultats devraient être annoncés le soir même vendredi. En Guinée, une personne est morte dimanche suite au virus Ebola. Cela porte à 8 le nombre de décès sur 9 cas recensés depuis la réapparition de la maladie dans le pays. Idriss Fall.
D'après Ibrahim Silla du centre de traitement Ebola à Nzérékoré, il y a 8 morts et sur 9 cas confirmés. La dernière victime est une dame qui est décédée dimanche. Plus de 1300 personnes susceptibles d'avoir été contaminées par des malades ont été vaccinées, dont 242 sont considérées à haut risque. Deux personnes qui ont fui Koropara sont activement recherchées. La Guinée avait été déclarée exempte à la fin décembre, mais le 17 mars, de nouveaux cas ont été découverts près de la frontière avec le Libéria, où le virus Ebola a également refait surface. À Monrovia, les autorités ont annoncé que la femme décédée d'Ebola était venue de Guinée. Elle avait franchi la frontière avec ses trois enfants, dont l'un a été testé positif puis hospitalisé, et les deux autres ont été placés en quarantaine.
Au Niger, deux civils ont été tués par deux kamikazes qui se sont fait exploser mardi dans un véhicule de transport public près de Difa, dans l'extrême sud-est du pays. C'était le jour de marché à Difa. Immédiatement, l'attaque... Deux avions ont survolé la ville, apparemment pour vérifier s'il n'y avait pas d'infiltration de combattants islamistes. Le 30 mars, six soldats nigériens ont été tués dans une embuscade tendue par des éléments de Boko Haram. Environ deux semaines plus tôt, le 17 mars, trois jours avant la présidentielle, un commandant de l'armée nigérienne a été tué par des kamikazes. Peine de mort dans le monde, Amnesty International révèle 1634 exécutions dans le monde en 2015. Les exécutions au plus haut depuis 1989. C'est l'Égypte qui bat le record en Afrique avec plus de 538 exécutions, suivies du Nigeria avec 171, tandis que l'Algérie enregistre plus de 62 selon Amnesty International.
VOA Afrique en direct de Washington.
L'ancien président de l'Assemblée nationale gabonaise, Guy Nzouba Ndama, a annoncé hier sa candidature à l'élection présidentielle devant se tenir au second semestre de 2016. Il rejoint ainsi la liste des adversaires déclarés du président Ali Bongo Ondimba à cette présidentielle, notamment l'ancien président de la Commission de l'Union africaine, Jean Ping, et l'ancien premier ministre Raymond Ndong Sima. On écoute l'analyse du sociologue Anaclette Bissilou.
En arrière-plan de cette annonce de candidature, c'est d'abord la crise du PDG, c'est d'abord la crise du parti au pouvoir. Et je crois que c'est surtout cet arrière-plan-là qui retient l'attention des Gabonais. La candidature s'inscrivant par ailleurs dans un contexte où il y a déjà eu près d'une dizaine de candidatures qui ont précédé la sienne. Donc en résumé, c'est surtout le fait que cette candidature d'un hiérarque ne laisse plus aucun doute sur la crise au sein du PDG.
Le bilan des affrontements au Congo-Brazzaville, selon le gouvernement, 17 personnes, dont 3 policiers, 12 assaillants et 2 civils, ont trouvé la mort pendant les violences. Par ailleurs, les autorités affirment détenir des preuves accablantes contre le pasteur Ntumi, ancien chef ninja, comme étant l'auteur principal de cette attaque. Dans la ville de Brazzaville même, le calme est revenu dans les quartiers sud. Le déploiement militaire et policier est intact, retardant parfois le retour massif des populations. Les Brazzavillois qui ont pu retourner n'ont pas leur langue dans la poche, nous dit notre correspondant permanent Ngoula Ngoussou.
Les populations ont commencé à regagner leurs maisons qu'elles ont précipitamment quittées lundi à la suite des affrontements armés dans les quartiers sud. La circulation a repris, les commerces et quelques marchés à Bourreau, à Madibou et très timidement à Total, l'un des plus grands de la capitale congolaise. À plus de 70 ans, Joseph ne s'explique toujours pas ce qui s'est passé à Makelele.
Moi, je suis parti de chez moi, de Makelele, à pied, hein, jusqu'à Mungali, là-bas, dans l'Outassi. J'ai passé la nuit là-bas, je n'ai même pas bien dormi. Là, j'ai même sommeil. Voyez-vous? Mais tout ce qui se passe, là, regarde, on a même brûlé les archives de la mairie. Même la maison commune est brûlée. Oh, dis donc, on est... mais comment? On veut rester sans archives? C'est pas normal, ça.
Autour d'une bière, au quartier Matour, Alfred, sur son tricycle, voit plutôt un jeu du gouvernement dans cette attaque attribuée au ninja.
C'est une façon d'attaquer le stress et de faire avec la réalité. Parce que les autorités veulent nous obliger à vivre dans une psychose permanente. Donc nous sommes en insécurité pendant que nous prenons notre bière ici tranquillement. Au Congo, quand on parle de sécurité, souvent on pense aux ninjas. Alors, comme il devrait publier la validation de la candidature du chef de l'État, donc il a fallu créer une situation qui allait désorienter l'attention des Congolais. Pendant qu'ils allaient penser à l'insécurité, ils publient les résultats de la Cour constitutionnelle. Il n'y a pas de contestation parce que les gens sont obligés d'abord de penser à se mettre en sécurité, tout un tas de choses. Donc c'est ce que nous considérons parce qu'il n'y a pas eu guerre, il n'y a pas eu confrontation entre ces prétendus ninjas et les éléments de la force publique.
Une passante, baluchant sur la tête et traînant un enfant d'environ 4 ans, lance tout simplement ceci.
Franchement, on est fatigué. S'il veut continuer pour l'éternité, il n'a qu'à rester là. Mais qu'il nous colle la paix, la partie sud. Il n'y a pas deux pays. C'est réellement, il est le père de la nation. Mais il doit nous laisser en paix. Pourquoi seulement la partie sud? Ça, c'est un scénario qu'il a monté. Hein? C'est pas normal. Mais je suis revenu à la maison, j'ai marché à pied jusqu'ici.
Malgré le calme revenu, policiers et militaires lourdement armés restent déployés dans les quartiers sud de la capitale congolaise, Nguela Nguessou, Brazzaville, VOA Afrique.
L'administration américaine envisage de retirer du nord du Sinaï des soldats américains appartenant à une force de l'ONU pour les déplacer plus au sud de la péninsule en raison notamment de la menace du groupe État islamique en Égypte. Selon la télévision américaine CNN, l'Égypte fait face à une insurrection du groupe djihadiste armé dans le Sinaï depuis la destitution en 2013 du président islamiste Mohamed Morsi. Les primaires aux États-Unis, les favoris Donald Trump chez les républicains et Hillary Clinton chez les démocrates ont chacun essuyé un revers mardi dans le Wisconsin, permettant à leurs poursuivants de légèrement rattraper leur retard dans la course aux délégués pour l'investiture. Bernie Sanders et Ted Cruz se présentent désormais comme de sérieuses alternatives dans leurs camps respectifs pour l'ancien diplomate américain Herman Cohen. Les résultats du Wisconsin pourraient changer les tendances.
Ça peut être un tournant. Nous allons voir la prochaine élection. C'est important, c'est à New York. New York, il y a un grand nombre de délégués. C'est un État qui a, vers le nord, ils ont des républicains. Et dans la ville de New York, c'est très démocratique. Donc on va voir. Si Sanders et Cruz gagnent à New York, donc, c'est toute une autre histoire. L'élection peut basculer vraiment. Donc, c'est toujours très difficile de faire une prédiction pour qui va gagner. Maintenant, on ne peut plus dire ça.
L'ancien diplomate américain Herman Cohen, le cabinet d'avocats panaméen Mossack Fonseca, au cœur du scandale des Panama Papers qui a éclaté dimanche, a affirmé hier avoir été victime d'un piratage informatique opéré depuis des serveurs étrangers et avoir porté plainte à ce sujet. L'enquête lève le voile sur un vaste système d'évasion fiscale impliquant de hauts responsables politiques, sportifs ou des milliardaires. Et puis, quelques 422 millions d'adultes dans le monde souffrent de diabète, soit 4 fois plus qu'en 1980, selon le premier rapport global de l'OMS publié aujourd'hui. Ce rapport souligne l'énorme ampleur de cette maladie chronique, dont la progression est liée notamment au fléau croissant de l'obésité. À l'échelle mondiale, l'Organisation mondiale de la santé estime que 422 millions d'adultes vivaient avec le diabète en 2014, comparé à 108 millions en 1980. Cette maladie frappe ainsi 8,5% de la population adulte dans le monde, soit 2 fois plus qu'en 1980, en raison de la hausse des facteurs de risque tels que le surpoids et l'obésité. Point final à ce journal. Jean-Roger Billon à ce micro. Le prochain journal vous sera présenté par Henri Francisque. Pour ma part, je vous dis bon après-midi sur le continent.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.